LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Attention, certains des propos qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des personnes non averties.
There are so many daughters and mothers.
Il y a tant de filles, de mères, de sœurs, de tant de nos territoires qui ont disparu dans ce pays. Et personne ne proteste. Personne ne dit « Elles ont disparu. Trouvez-les. Où sont-elles ?» Personne ne crie. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire. Et alors, peut-être pourrons-nous arrêter ces crimes. N'importe laquelle d'entre nous peut disparaître à tout moment.
Nos lois perpétuent les violations des droits fondamentaux, ce qui mène à un génocide envers les femmes, les filles et les personnes autochtones issues de minorités sexuelles. Ce pays est en guerre et les femmes autochtones en état de siège. C'est la conclusion de la première enquête consacrée au féminicide des femmes autochtones au Canada, parue en 2019. Car entre 1980 et 2012, 1181 meurtres et disparitions d'Amérindiennes ont été déclarés à la police. Proportionnellement, c'est comme si 55 000 Françaises avaient été assassinées ou avaient disparu en toute impunité et dans l'indifférence générale. La poétesse autochtone Hélène Note se demande « Quelle croyance as-tu nouée à mon corps? De quelle pathologie as-tu teinté le pigment de ma peau? Ça ne te bouleverse pas de me rechercher parce que tu ne m'as jamais vraiment vue. À tes yeux, je suis jetable. Voilà comment tu me vois. Jamais comme la fille de quelqu'un, jamais comme la mère de quelqu'un, jamais comme la tante, la sœur, l'amie, jamais comme ce que je suis. » Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes. Une série documentaire de Pauline Chanu, réalisée par Marie Placé. Épisode 3, Femmes de mauvaise vie.
Right now, United States, Canada.
À l'heure actuelle, aux États-Unis, en Alaska et au Canada, on assiste à une terrible continuation du génocide originel contre les peuples natifs.
Jane Caputi, historienne états-unienne, autrice de The Age of Sex Crime.
C'est-à-dire que les femmes autochtones sont assassinées et violées à un taux bien plus élevé que les femmes blanches. Les femmes autochtones sont les plus exposées à la violence. Si bien qu'il existe aujourd'hui un mouvement visant à obtenir justice pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Et puis, si les femmes sont pauvres, si les femmes sont natives ou noires, souvent les meurtres sont complètement ignorés. Bien sûr, toutes les femmes peuvent être blâmées pour les crimes qu'elles subissent, mais si vous appartenez à l'un de ces groupes marginalisés, vous êtes particulièrement tenu responsable. Aujourd'hui, quand on traverse le Canada, on voit un peu partout des monuments commémoratifs en l'honneur des femmes autochtones qui ont été victimes de féminicides, qui ont été portées disparues et assassinées. Et je crois que nous avons besoin de nous les remémorer.
Je pense que d'abord, il y a la nécessité de reconnaître cette femme-là qui était tuée, de la reconnaître, de la décrire, de parler d'elle, pour éviter que ce soit noyé dans un ensemble vague.
Patricia Romito, professeure de psychologie sociale à l'Université de Trieste, autrice de « Un silence de morte ».
Et quand on voit le nombre de femmes qui sont tuées par un partenaire dans chaque pays, et aussi le nombre, par exemple, des femmes dans la prostitution qui sont tuées, parce que là, c'est vraiment des femmes qu'on ne voit pas du tout. Elles disparaissent, parfois c'est des femmes en situation d'illégalité, et c'est vraiment le « missing », donc les disparus parmi les disparus. Et là, on voit bien les mépris aussi pour ces femmes, on les voit très fort. Par exemple, au Canada, il y a un serial killer, un tueur en série, qui a tué des dizaines de femmes prostituées. qui étaient presque toutes des natives, d'origine inuite, donc des femmes qui socialement ont très peu de valeur. Cet homme-là a tué autour de 50 femmes dans le monde de la prostitution. Après, il a été condamné pour 5 ou 6, parce que dans les autres cas, on n'a pas trouvé les corps. Et ce qui est horrible, une de ces prostituées avait réussi à échapper. Et donc, elle avait dénoncé, elle avait raconté, mais comme c'était une prostituée toxicomane d'origine inuite, on ne s'est pas intéressé à son histoire et on a, comment on dit, archiviato. On a classé sans suite sa dénonciation.
La plupart des victimes de Robert Picton, qui a tué des dizaines de jeunes femmes, étaient d'origine amérindienne. Souvent des personnes en rupture avec leur famille, dont la disparition n'étonnait personne. Surtout pas la police de Vancouver, si l'on en croit Dave Dixon, un policier à la retraite. Il s'est intéressé à ces enlèvements 5 ans avant que le meurtrier en série ne soit finalement arrêté.
RFI, septembre 2014.
En 1998, quand j'ai remis mon rapport sur la première liste de 31 femmes disparues, je l'ai remis à mon supérieur, un inspecteur, qu'il a remis au chef de la police. Il a dit qu'il n'allait pas gaspiller de l'argent pour s'occuper de sales prostituées. J'étais bouleversé. C'était la mentalité, la façon de voir du numéro 2 de la police de Vancouver. Cette attitude des officiers explique que les enquêtes ont été bâclées, des preuves ont été égarées ou n'ont pas été traitées comme il aurait fallu.
Or not handled properly because of certain attitudes on behalf of police officers.
No human involved, c'est une étiquette qu'on utilisait pour une catégorie des crimes où il n'y a pas des êtres humains. Et donc, c'est des crimes qui ne sont pas aussi importants comme il serait un crime où une personne, et surtout un homme, est tué. Et c'était une indication du fait qu'il ne fallait pas trop se fatiguer pour chercher l'homicide.
You know, certainly, as with any other subject, demands intersectional analysis, right?
Which is... Ce sujet mérite une approche intersectionnelle car les victimes ont plus ou moins de valeur et sont classées selon certains facteurs. Leur classe sociale, leur ethnicité, si elles sont valides, si elles sont âgées.
And also, which serial killers
il faut se rappeler que certains tueurs en série, comme par exemple l'éventreur du Yorkshire en Angleterre, mais aussi les étrangleurs de la colline à Los Angeles, ont même été héroïsés à la fin des années 70 quand ils tuaient des travailleuses du sexe. Personne n'accordait d'importance aux victimes. Mais lorsque ces tueurs en série ont changé de cible et ont tué des femmes qui n'étaient pas des travailleuses du sexe, eh bien, dans ces deux affaires, les journaux, les médias, les policiers ont explosé. Ils ont dit « Vous tuiez des prostituées, nous détestons tous les prostituées. Mais maintenant que vous tuez des femmes innocentes, ce sont leurs mots, alors vous devez vous dénoncer, vous devez comprendre que vous avez un problème mental. » Il normalisait le fait qu'il était OK pour les hommes de haïr et de tuer les travailleuses du sexe.
I am here for the 10 women who were raped and strangled between October 13th and November 29th.
In memory of our sisters, we fight back!
In Mourning and Rage, performance à Los Angeles, 1977. En hommage aux victimes des étrangleurs de la colline.
I am here to speak for the thousands of women who have been raped and beaten and who have not yet found their voices.
Alors, pendant cette performance, au fond, il y a des femmes qui sont voilées de noir et qui disent à chaque phrase après « Je suis ici », elles disent « En mémoire de nos sœurs, nous ripostons » pour dénoncer des crimes en série, connus comme étant les affaires des étrangleurs de la colline. Et donc, dans ce cadre, deux performeuses féministes, Suzanne Lacey et Leslie Labudwich, vont faire cette performance qui s'appelle « In Mourning and in Rage ».
Margot Giacenti, docteur en sciences politiques, autrice d'une thèse Quand il n'y a pas mort d'homme, socio-histoire du féminicide en France, 1791-1976.
Alors, pour me situer par rapport à ce sujet de recherche, donc, j'ai trouvé chez ces performeuses une dimension un peu clé quand on travaille sur le féminicide, c'est qu'on est en train de travailler sur des femmes dont la voix a été prise. Donc c'est la fameuse « nous sommes le cri de celles qui n'en ont plus ». Cette dimension de la voix, elle a été très constitutive de la manière dont j'ai dû penser le travail, puisque un des objectifs, ça a été de comprendre s'il y avait eu des parcours de violence qu'on pouvait saisir par les archives en essayant de reconstituer ce que ces femmes avaient vécu avant d'être tuées. Le féminicide, et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est un crime de l'appropriation. Et en effet, on voit bien qu'il s'agit pour les hommes d'empêcher les femmes, notamment, de partir. Ce qui me dérange un tout petit peu dans le fait de s'arrêter simplement là, c'est que ça empêche de lire les actions des victimes comme étant importantes. On voit aussi dans les archives, en essayant de saisir la parole de celles qui ont été tuées, que les femmes ont agi. Le fait qu'elles agissent va être souvent un motif qui va pousser les hommes à tuer des femmes. Quand j'ai ouvert ces dossiers, je me suis rendu compte de toute l'ampleur de cette agentivité, puisqu'elles ont des stratégies qui sont bien documentées et qu'on peut relire. Il faut simplement le saisir. L'agentivité, on peut le traduire en fait par pouvoir d'agir. Ça vient de ce concept de Judith Butler, d'agency. La capacité à faire quelque chose avec ce qu'on a fait de moi. Donc c'est vraiment de dire, dans les rapports sociaux, les femmes sont subalternes. Mais malgré tout, dans cette subalternité, elles vont chercher à créer des marges, créer des résistances. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant comme concept, parce que ça permet d'interroger leurs propres actions avant d'être tuées. On peut trouver des types d'agentivité qui relèvent vraiment de très petits gestes, de très petites résistances. Par exemple, le fait de se moquer d'un homme. Donc là, vraiment, je l'ai retrouvé. On a vraiment des femmes qui font une blague. Et en fait, cette blague est déjà une atteinte à la réputation des hommes. Et cette atteinte à la réputation, elle est vécue comme étant inacceptable. C'est dans ce type de petits gestes, il y a en fait une grande prise de risque. Et cette grande prise de risque, elle va amener à des tentatives d'assassinat.
On voit bien que dans beaucoup des situations, les hommes s'attendent à être servis.
Patricia Romito.
À être servis matériellement, parce que le partage des tâches domestiques montre que c'est quand même les femmes qui font les plus. Et surtout d'être servis affectivement, d'une manière émotionnelle. C'est-à-dire c'est plutôt les hommes qui attendent d'être appuyés dans leur carrière, dans leur profession, etc. Ces hommes vivent tellement profondément l'idée qu'ils ont des droits que s'il n'y a pas une réponse immédiate à ce qu'ils attendent, ils sentent très fortement qu'ils ont été lésés et ça justifie pour eux les violences.
Jane Capiuti.
L'autre phénomène que nous observons, ce sont les incels.
I-N-C-E-L-S.
C'est un mot qui signifie célibataire involontaire. C'est un groupe d'hommes qui se retrouvent souvent sur Internet, qui sont en colère et pleins de rage parce qu'ils n'ont pas accès aux femmes socialement les plus désirables. Car vous savez, la promesse du patriarcat est que tous les hommes puissent avoir accès aux femmes. Et puis vous obtenez à nouveau cette hiérarchie où c'est surtout la jeune femme blonde, jeune, mince, perçue comme celle qui augmente le plus le statut social de l'homme, à laquelle ils aimeraient avoir accès quand ils le veulent.
And these incel men feel that they should have access to any woman they want.
Selon eux, ils devraient pouvoir avoir des relations sexuelles quand ils le souhaitent, mais ils se retrouvent rejetés par les femmes. Alors ces hommes tuent.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Des scènes épouvantables en fin de journée à l'école polytechnique de Montréal, où un tireur fou a tué 14 personnes et fait 13 blessés. Les 14 personnes tuées sont toutes des femmes. Après avoir semé la terreur sur plusieurs étages de l'édifice, il s'est enlevé la vie.
Radio-Canada, 6 décembre 1989.
Plusieurs étudiants étaient complètement bouleversés. Ils nous ont dit que le tireur avait demandé aux étudiantes d'aller d'un côté de la classe et aux étudiants de l'autre côté.
Là, j'ai découvert deux personnes étendues sur le sol, dont une était... Le visage était complètement massacré sur le côté. Elle avait reçu une balle dans l'œil Le sang était répandu partout sur le sol. Et l'autre personne, elle était encore vivante. L'autre personne, encore une fille, parce que le type tuait seulement les femmes.
Pour l'instant, on ignore tous les auteurs de cette tuerie. Les victimes, elles, sont des jeunes sur qui on fondait beaucoup d'espoir.
Alors, le 6 décembre 1989, à Montréal, à l'École polytechnique, un jeune homme, début vingtaine, rentre dans une première classe avec une arme semi-automatique. Il tire au plafond. Il demande aux hommes de quitter la salle. Et les filles, donc, restent en classe.
Francis Dupuy-Déry, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal.
Là, il va ouvrir le feu. Et il va circuler dans l'école pendant une vingtaine de minutes. Il va abattre au total 14 femmes, une agente administrative et 13 étudiantes. Et finalement, il va se suicider. Et sur lui, il a une lettre de suicide, mais qui est à la fois une lettre manifeste, dans laquelle il dit, en fait, livrer une guerre contre les féministes. Ce qui est important de savoir par rapport à l'attentat de Polytechnique, c'est qu'il y a l'attentat lui-même. Et puis, après ça, il y a le choc dans la société québécoise et comment on va l'interpréter, toute la lutte au niveau de la signification de cet événement. En fait, il y avait plusieurs stratégies pour minimiser ou neutraliser le sens politique de ce que le tueur avait fait. Le soir même et les jours qui ont suivi, plusieurs ont dit, ben, il faut en fait comprendre que dans le contexte actuel au Québec, en 89, où les hommes ont vécu tellement de bouleversements par rapport au féminisme, c'est pas étonnant qu'il se passe quelque chose comme ça. On a dit aussi, ce qui était faux, que le tueur avait été refusé à Polytechnique, que c'était de plus en plus difficile pour les garçons de rentrer à Polytechnique parce qu'il y avait des filières privilégiées pour les filles. Je rappelle qu'elles n'étaient que 19%. Et je rappelle par ailleurs que les filles n'ont pas, se promènent pas avec des armes semi-automatiques pour massacrer les gens parce qu'elles sont minoritaires dans les domaines d'études. Parenthèse.
Nathalie Provost a 23 ans. Elle était en classe de génie mécanique quand Marc Lépine est entré avec son arme.
Radio-Canada, 8 décembre 1989.
Quand il a dit qu'il en voulait aux féministes, elle s'est interposée.
Écoute, on est juste des femmes qui étudient en génie. Pas nécessairement des féministes. On n'est pas nécessairement descendu sur la place publique pour crier qu'on était contre les hommes ou contre des attitudes. On était juste des filles en génie qui voulaient juste mener une vie bien normale. Puis à ce moment-là, ben, c'est mis à tirer. Puis, je vais vous avouer que je comprends pas qu'il y ait encore des hommes qui pensent de cette manière-là.
Le tueur de Polytechnique, il va avoir des adorateurs, des admirateurs, qui proposent d'imiter son geste. Et donc, déjà en 2009, c'est les commémorations des 20 ans de la tuerie, de l'attentat, et à ce moment-là, il y a un site web animé par un antiféministe qui est actif au Québec depuis des années, dont le titre est « Héros et martyrs ». Il propose une journée nationale en son honneur, et il appelait même à polir ses fusils, et à reproduire l'attentat en hommage à ce héros et martyr qui était le tueur de Polytechnique. Se sont associés à ce réseau-là des hommes qui ont commis des attentats depuis à peu près 2014-2015 aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Ils se disent incels ou les incels les reconnaissent comme un des leurs. Ils commettent des attentats contre les femmes, souvent en publiant ou en écrivant des sortes de manifestes, ou des fois ils les enregistrent sur vidéo, où ils parlent de leur misère sexuelle et surtout ils culpabilisent les femmes et les jeunes hommes séduisants et séducteurs en disant que le monde était juste pour eux et que le monde va payer, ils vont se venger. C'est le jour de la vengeance. Ces attentats, ils sont liés à des logiques de domination et de propriété, hein, puisque le tueur de Polytechnique, il tue des femmes parce qu'elles sont étudiantes à Polytechnique. Et de façon intéressante, si je peux dire ça, il y a une liste, je pense, c'est 17 ou 19 noms de femmes qui sont, en 89, les premières femmes pompières, policières, commentatrices sportives à la radio, récipiendaires d'un prix de la Chambre de commerce. Donc, c'est vraiment une obsession sur les premières femmes qui rentrent dans des domaines considérés comme masculins. Et donc, ça veut dire, vous êtes sur notre territoire et je vais reconquérir ce territoire et je vais vous exterminer pour vous sortir d'un territoire qui ne devrait être qu'un territoire masculin. C'est quand même intense, là. On sait que chez les hommes qui commettent des homicides conjugaux, que pas toujours, mais en grande partie, ces agressions sont posées quand l'homme, et c'est des hommes qui le disent eux-mêmes, hein, dans des groupes d'intervention en violence conjugale auprès des hommes ou lors de procès, etc. Les hommes eux-mêmes disent, ben en fait, c'est parce qu'elle n'a pas rempli telle attente, mon repas n'était pas cuisiné comme je voulais, le ménage n'était pas fait, elle s'est pas habillée comme je voulais, elle est allée voir ses amies femmes alors que moi je lui avais dit de rester avec moi, etc. etc. Et pour ça, elle mérite donc d'être punie physiquement.
Le président de la cour à lui était assez violent, mais après c'est peut-être un autre. Bon, par exemple, il y en a tellement. Dis au gars que tu vois, qui te protège parce que la vie de ma mère, t'es une grosse victime, t'as compris, t'es une chienne, une grosse chienne, et tu vas voir, t'as deux minutes pour me dire la vérité. Après, police, tes parents, même le président, j'ai peur de personne, t'as compris, donc tu me réponds sur mon numéro et tout de suite dis la vérité, parce que tu vas rien comprendre quand je te verrai. Enfin voilà, c'est que des trucs de ce genre-là, quoi. Il y en a tellement.
Et vous avez des traces depuis le début de la relation, quasiment ?
Ah non, là, c'est que depuis que je suis partie. Hein. Mais là, ils avaient retrouvé en deux mois plus de 26 000 SMS ou appels de son numéro vers le mien. Donc, je m'appelle Alison, on m'appelle Lily, j'ai bientôt 34 ans, je suis maman de 3 enfants, j'habite dans la Marne et voilà, je suis anciennement aide-soignante. Alors au tout début déjà, moi il m'avait dit qu'il était électricien, qu'il était dans une boîte d'électricité en CDI, voilà, sinon quelqu'un de très simple, qui aimait beaucoup la vie de famille, qui voulait qu'on passe beaucoup de temps ensemble. C'était que des compliments, il me disait toujours qu'il était étonné de pouvoir être avec une femme comme moi, qu'il était heureux, qu'il était fier, vraiment quelqu'un qui me mettait sur un piédestal au début. Ensuite, quand on s'est installés ensemble, les premiers signaux où j'ai vu que ça n'allait pas, déjà il y avait beaucoup de chaud et froid, c'est-à-dire qu'il me donnait énormément et des fois quand je rentrais le soir, il ne me parlait pas et je ne savais pas pourquoi. Donc je me remettais en question sans cesse à savoir où j'avais fauté. Donc ça déjà, ça mettait une espèce d'ambiance très très bizarre et je me disais que quelque chose n'allait pas, mais là vraiment où j'ai senti que ça n'allait pas, au-delà des prises de tête de couple, où ça commençait déjà à être un peu... beaucoup de disputes, quelques humiliations, quelques paroles assez déplacées, j'ai voulu stopper la relation. Et donc je lui avais tout simplement envoyé un SMS en lui disant « Écoute, ce soir, je vais rentrer chez moi, puisque j'avais encore moi ma maison, et puis on va s'arrêter là. » Et je suis sortie de chez la nounou de ma fille, et il était devant chez elle, alors qu'il était ni censé savoir à quelle heure j'allais la chercher, ni censé savoir où elle habitait, ni censé savoir où je garais ma voiture. Et il était assis sur le capot de ma voiture. Et je me rappelle, c'était en hiver, il faisait nuit, froid, donc il m'a dit « tu rentres, et puis on va en discuter ». Et à partir de là, ça a complètement changé. Bon, c'est-à-dire que là, les violences, elles ont commencé vraiment à s'installer, les insultes, elles étaient plus... plus caché sous couvert de plaisanteries, c'était des vraies insultes, des bousculades, des morsures. Parfois la nuit, il me mordait et il me disait en fait ça c'est pour... je te marque parce que t'es à moi en fait, donc je te laisse des marques. Un flicage, vraiment j'ai découvert qu'il y avait une application qui était installée dans mon téléphone d'ailleurs. Donc ça a très très vite dérapé et... Il y a une fois même où il m'avait dit qu'il allait travailler et en fait il s'était caché dans l'armoire toute la matinée. Voilà, moi j'étais en repos, j'étais restée toute la matinée à m'occuper du ménage, de la vaisselle, de faire à manger. Et à 11h du matin, il est sorti du placard. Donc il avait caché ses baskets, caché ses affaires. Il avait fait semblant de partir au travail pendant que je déposais mes enfants. Et en fait, il était resté quasiment 3 heures caché dans le placard pour vérifier que je n'appelais personne, que je ne recevais personne à l'appartement. Et oui, là, je me suis dit que vraiment, ça allait être vraiment très, très, très compliqué. Et puis, ça en est venu aussi très rapidement, les viols. Pendant certains viols, il me disait en fait que l'éjaculation, c'était une manière aussi de marquer son territoire. Après, j'ai eu du mal à mettre des mots sur les viols. En fait, c'était tellement douloureux physiquement, j'arrivais plus en fait à suivre physiquement. Donc, il m'avait accordé un jour sur deux, pour que je puisse me reposer. Et là, pour l'instant, j'ai pas du tout conscience que c'est... je me dis en fait que c'est la vie de couple, quoi, que je lui dois ça, quoi, presque. Il y a une scène en fait que j'ai identifiée comme un viol puisque ça a été, pardon pour les termes, mais une sodomie en fait forcée pendant un rapport consenti en fait. Et c'était une pratique qu'on avait évoquée et que je refusais totalement. Donc il le savait, hein, ça avait été verbalisé en fait. Et voilà, quand il a pénétré, je l'ai prévenu même, voilà, en disant stop. Voilà, il a continué clairement en me disant « Ferme ta gueule, tu vas réveiller les enfants. » J'ai pleuré. Enfin, tout était là, en fait. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas de doute sur le fait que c'était violent, que c'était voulu malgré mon refus. Et après l'acte, il m'a uriné dessus. Donc, c'était quand même assez humiliant et violent. Et le lendemain, c'est vrai que j'ai des bleus. Donc, je décide d'aller chez mon médecin qui me met 7 jours d'ITT et voilà, qui évoque le viol, en fait. Et quand je sors de chez le médecin, il est là, en voiture. Il a dû se douter que j'allais faire ces constatations. Donc j'ai réussi à cacher mon certificat médical que j'ai gardé, mais dont je ne me suis pas servie en tout cas à ce moment-là. Alors j'ai vite été en arrêt de travail puisque ma perte de poids a fait que physiquement je ne pouvais plus. De toute façon je ne dormais plus, je ne mangeais plus. J'ai eu des gros problèmes de santé donc je me suis retrouvée pendant plus d'un an à être hospitalisée 48 heures toutes les semaines pour être perfusée, pour avoir une dose de... C'était du potassium, voilà. Sinon mon cœur risquait de s'arrêter. Et ensuite ça a continué comme ça jusqu'au jour où son ex-compagne m'avait appelée pour me dire presque en pleurs en me disant... S'il te plaît, le laisse pas sortir de chez toi, il va me frapper. Et il venait de sortir en plus. Il m'avait dit je vais chercher des cigarettes, je sors. Et il était très tard en plus, je trouvais ça assez bizarre. Et je lui dis mais comment ça, il va te frapper? Enfin, je comprends pas. Je croyais que c'était depuis longtemps terminé en fait. Et de là, elle m'a tout expliqué en fait que non, qu'il continue, qu'elle en peut plus et qu'elle comprend pas pourquoi je ne pars pas alors que j'ai pas d'enfant avec lui et que moi je peux m'en sortir. Qu'elle, elle est condamnée. Mais pas moi, et elle comprend pas que moi je fasse pas le nécessaire. Mais je lui dis, je pense qu'à deux, on peut peut-être avoir plus de force, si on se soutient, si forcément moi on me croit pas et toi on te croit pas, mais peut-être qu'à deux on nous croira finalement. Dès le lendemain, je vais déposer plainte, moi pour viol, violence, harcèlement, et son ex-compagne, là pour des faits de harcèlement sexuel et harcèlement, menace. Et de là, s'en est suivi un tout autre calvaire. Qui s'est poursuivi, quoi.
Je pense que la déhumanisation des femmes, ça passe absolument partout et c'est très utile pour arriver aux violences. Hein, parce que si les femmes ne sont pas des êtres humaines, eh bien, alors on peut leur faire n'importe quoi.
Patricia Romito, autrice de Un silence de morte.
Je pense que un élément important de la déhumanisation, on pourrait en parler énormément parce qu'elle est un peu partout, dans la pornographie, hein, premièrement, dans la publicité, où on voit des corps de femmes dénudées, où on voit justement plutôt des parties du corps des femmes, les jambes, les seins, et la bouche. Et d'ailleurs, quand on tue des femmes, parfois on les coupe en morceaux, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de les démembrer, de les brûler, qui va au-delà du fémicide. Vous savez, enfin, dans une salle des gym à Rome, je l'avais vu d'abord dans les vestiaires, dans une salle des gym à Doha, je crois, dans les Émirats, il y a un urinoir qui a la forme d'une bouche de femme. Mais je pense qu'un élément très important et plus subtil de la déhumanisation des femmes, c'est dans le fait qu'elles ne sont pas crues quand elles dénoncent les violences. Elles ne sont pas crues parce qu'elles ne sont pas considérées des êtres humains à part entière. Les témoignages d'une femme, historiquement, n'ont pas de valeur. Et encore aujourd'hui, Catherine McKinnon, qui est une grande juriste et une grande féministe nord-américaine, a beaucoup travaillé sur les violences sexuelles sur les campus universitaires. Il dit, j'ai remarqué qu'il fallait que trois femmes différentes dénoncent les mêmes violeurs qui avaient agi de la même manière pour qu'on croie aux femmes plutôt qu'à cet homme. Et donc, elle conclut, la parole des femmes vaut un tiers de la parole des hommes, l'humanité des femmes vaut un tiers de l'humanité d'un homme.
Après mon premier dépôt de plainte,
Allison.
Le policier m'a appelé, il m'a dit, bon, écoutez, au vu des éléments du dossier, il va passer au tribunal dans 6 mois. Ok, donc bonne nouvelle. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est le délai, quoi. Parce que vous vous retrouvez seul face à un homme quand même que vous savez violent, dangereux, de qui vous avez peur, et là, il sait que vous avez parlé. J'ai déposé plainte en juin, donc c'était en août. J'étais maître de l'essence. Il est sorti donc de nulle part. Donc l'été, donc, j'avais un pantalon, puis moi, j'étais très maigre, hein, donc un pantalon fluide et assez large, et il a baissé mon pantalon avec ma culotte pour voir si... Donc devant, hein, il y avait un autre monsieur qui était en train de mettre l'essence, d'ailleurs, pour voir si j'étais épilée. Au niveau des parties intimes, parce que c'est quelque chose que j'avais interdiction de faire quand on était en couple, puisque quand il m'a connue, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, et il savait que je n'aurais pas pu le tromper sans avoir une épilation entre guillemets parfaite au niveau du maillot, quoi. Bon, c'est quand il a vu que je m'étais épilée, parce que effectivement, c'est quelque chose quand j'ai repris ma vie, repris ma vie, c'est un grand mot, mais en tout cas, tout de suite que j'ai fait, il est rentré dans une colère noire. Il m'a dit t'es morte, t'es foutue. Et bon, enfin, en tout, j'ai redéposé encore 6 plaintes derrière. Pour violence, menace de mort, des courses-poursuites en voiture, donc mise en danger de la vie d'autrui. Et j'ai jamais été prise au sérieux, en fait. Jamais. Jamais. J'ai été prise comme la chiante, en fait, qui vient sans cesse. Moi, on m'a dit, mais vous en avez pas marre de venir. Mais si, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Tout ce que je veux, c'est quelque chose, une ordonnance de protection ou quelque chose, mais on m'a rionné, quoi. À l'époque, on m'a dit, mais vous rigolez ou quoi? Ça se passe pas comme ça, en fait. Vous allez pas l'avoir comme ça. C'était une femme, d'ailleurs, hein, qui m'a dit, mais en même temps, elle m'a dit, mais en même temps, en vous mettant en couple avec quelqu'un comme ça, vous vous attendiez à quoi? Mais j'ai pas compris le quelqu'un comme ça, en fait. Parce que, enfin, il est très banal, finalement, vous voyez. Elle m'a dit, vous savez, si vous êtes pas contente, hein, bah, vous faites comme d'autres, hein, vous prenez vos gosses sous le bras et puis vous allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il y avait ma mère qui était là, elle était choquée, mais elle s'est dit en même temps, ouais, c'est peut-être encore la meilleure chose à faire, finalement. Et donc voilà, me voilà partie dans mon... J'ai prévenu personne, pas même mes amis. Enfin, c'était très dur, en fait, de partir comme ça. Mais c'est vrai qu'on a pris tout un tas de précautions, c'est-à-dire qu'on a pris l'autoroute, enfin, on a fait tout un détour pour partir sur Paris, pour être sûr qu'ils ne nous suivent pas. On est parti à 5h du matin pour être sûr qu'ils ne soient pas devant chez moi au moment de mon départ. La location après de l'appartement s'est faite évidemment pas à mon nom, c'était sous le nom de mon père. La ligne internet sous le nom de mon père. On a essayé de prendre un maximum en tout cas de précautions. Quand je faisais un retrait, je le faisais dans une autre ville. Pour pas qu'il, s'il avait accès à mes comptes ou quoi, qu'il puisse pas voir où je retirais de l'argent. Hein, c'était assez, c'était une vie en cavale, quoi. Épuisant, épuisant. Peu de temps après, je reçois un message sur mon compte Vinted. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai pas été peut-être très maligne. En tout cas, j'y ai pas pensé. Mais effectivement, j'avais mis mon nouveau point relais, en fait. Là, je reçois donc un message sur Vinted pour une doudoune en me disant, en gros, c'est moi. Et donc, je dis, bah, ça fait une semaine que je suis là et c'est où j'habite, quoi. Donc, le harcèlement continue, mail, message, menace. Et jusqu'en novembre, où là, il vient chez moi, et qu'il est rentré chez moi, et j'ai pas le choix. Bon, il est rentré dans une colère noire, et il m'a dit, de toute façon, je ne comprends pas. Alors, je vais être cru, il m'a dit, de toute façon, tout le monde te baise, et moi, tu veux pas. Et je lui ai répondu, mais en fait, tout le monde sauf toi, quoi. Je préfère tout le monde, mais sauf toi. Et de là, il m'a attrapé le visage et il m'a attrapé à la gorge. Et il m'a jeté sur le canapé. Et ma fille dormait dans la chambre. Et il a serré vraiment longtemps, fort. Et je me suis dit, en fait, là, je vais mourir sur ce petit canapé. Ma fille, elle va me retrouver morte demain matin en se réveillant. Et je vais mourir dans ses sales mains, quoi. C'est ça, ma fin de ma vie, quoi. Et ma gorge a fait une espèce de gros craquement. J'ai eu là-bas comme du vomi, en fait. Et de là, il a lâché, en fait. Et je me suis effondrée par terre. Je pouvais absolument plus émettre de son. Il m'a dit, attends, je vais te chercher de l'eau. Il m'a mis de l'eau sur le visage. Il m'a dit, viens te coucher, je vais te border. Et je vais rester à côté de toi parce que vu ce qui vient de se passer, je préfère prendre soin de toi jusqu'à ce que tu t'endormes. Et j'ai fini par m'endormir. Et la nuit, je me suis réveillée, en fait. Et en fait, il était encore en train d'essayer d'avoir un rapport sexuel pendant que je dormais. Et là, je lui ai dit, écoute, arrête ou je me saute par la fenêtre, quoi. Je peux plus, là. C'est vrai, quand on parle de lui, on dit l'autre fou, le barjo, enfin voilà, psychopathe, c'est vrai que ça ressort beaucoup. Après, voilà, on a vu les experts déjà qui disent effectivement que pas du tout. Il a absolument aucune pathologie à ce niveau-là. Sa construction de la sexualité qui s'est faite entièrement via les sites pornographiques, puisque ça, c'est aussi quelque chose qui est ressorti, c'est-à-dire qu'il consultait des sites pornographiques dès 7h du matin en se réveillant. Il était sur les sites porno dans la cuisine pendant qu'on était en train de prendre notre petit-déj, quoi. Enfin... il a été donc condamné à 12 années de réclusion criminelle, à des dommages et intérêts, à un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans, je crois, et il est fiché au fichier des délinquants sexuels. Et j'ai pas voulu rester pour le verdict, parce que j'avais trop peur d'être confrontée à sa famille, j'avais trop peur aussi du verdict en lui-même. Aujourd'hui, je regrette. Je pense que ça m'aurait peut-être fait du bien d'entendre coupable, coupable, coupable.
Ziwaldam, Ziwaldam, Ana kwika, kto dana. Ziwaldam, Ziwaldam, Malian Pita Odana.
Dans la structuration des sociétés d'inégalité de genre, il y a la question connexe de la sexualité et de la reproduction.
Christelle Tarot, historienne, directrice de l'ouvrage collectif Féminicide, une histoire mondiale.
C'est lié en fait à un problème qu'on retrouve dans toutes les sociétés humaines à toutes les époques, c'est qu'une mère, on sait toujours à peu près qui elle est. Pour le père, c'est toujours beaucoup plus aléatoire. Les pères n'ont aucun moyen de s'assurer, sauf par la contrainte, que leurs enfants sont bien d'eux. Ça va donner lieu, évidemment, à des politiques de contrôle du corps des femmes extrêmement importantes. Ça pose un énorme problème, parce que si les femmes sont inscrites dans cette vision de la pureté, qui d'ailleurs est entretenue par les religions, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient pures avant le mariage, chastes pendant. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas de relations sexuelles qui n'ont pas comme vertu la reproduction. Mais ça, c'est assez peu compatible avec une autre idée fondatrice des patriarcats qui est la sexualité irrépressible des hommes. En tant que les hommes doivent avoir des réceptacles à leurs besoins en tout temps et en tout lieu. Ça ne peut pas être les épouses. Ça produit en fait des sociétés de dichotomie. C'est-à-dire où on va diviser les femmes en deux groupes. D'un côté, on va avoir des épouses qui sont des femmes-ventres. De l'autre, on va avoir d'autres femmes qui sont des femmes-sexes. On pourrait imaginer que les épouses sont supposées, évidemment, être plus protégées. Elles sont tuées, évidemment, quand elles dérogent à l'ordre dans lequel elles sont inscrites, mais pas seulement. Elles peuvent aussi être tuées, par exemple. On a des exemples de féminicides très connus parce que l'homme veut épouser une autre femme. Prenons un exemple très connu en Europe, Henri VIII d'Angleterre. Quand il veut se débarrasser d'Anne Boleyn, eh bien, il va l'accuser de 8 ou 9 adultères, en particulier d'un adultère incestueux avec son propre frère. Étant entendu que dans toute l'historiographie anglaise jusqu'à une date récente, Anne Boleyn était présentée comme une « pute tentatrice », entre guillemets, alors que si on regarde ce qui s'est passé, on voit une femme qui est harcelée et agressée systématiquement par un homme de pouvoir auquel elle ne peut pas dire non. Parce que si elle dit non, c'est une mort sociale. Donc, si on regarde différemment, on raconte pas la même histoire, évidemment. Toutes les religions sont des religions patriarcales. Elles sont, d'une certaine manière, un des instruments pour valider le fait de tuer des femmes. Donc, c'est valable, évidemment, pour ce qu'on appelle les trois grandes religions du livre. Chronologiquement, le judaïsme, le christianisme, puis l'islam, qui impose des figures de la punition létale pour les femmes, en particulier le lynchage, la lapidation, qu'on retrouve dans les trois religions. Mais on peut dire que les grandes religions non monothéistes, comme l'hindouisme ou le bouddhisme, ne sont pas non plus exempts de violences féminicidaires. Elles s'attachent au déshonneur des hommes. L'honneur des hommes est plus important que tout.
Mais donc, finalement, les crimes d'honneur sont liés à une culture traditionnelle où la virginité des femmes est au centre de l'honneur de toute la famille. Et donc, les crimes d'honneur existent dans plusieurs cultures, sûrement autour de la Méditerranée, mais pas seulement, enfin au Pakistan, par exemple, ou dans d'autres pays.
Patrizia Romito.
En Italie, les crimes d'honneur ont été inscrits dans les codes pénals jusqu'en 1980. La formulation du crime d'honneur telle qu'elle est dans les codes pénals italiens est absolument identique à celle qui existe encore dans les codes pénals de certains pays. Je pense à la Jordanie, par exemple. Et pourquoi ? Parce que c'est inspiré par les codes napoléoniennes. Napoléon était un grand masculiniste. D'ailleurs, il a dit quelque part, la femme et ses entrailles appartiennent à l'homme. Et pour les codes d'honneur, donc ça fait vraiment partie de notre culture patriarcale, malheureusement. Donc, c'est pas si éloigné que ça de chez nous. Hein.
شعری از نادیا انجمن عباس نیست شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم من که منفور زمانم چه بخوانم چه نخوانم
aucun élan aucun désir que pourrais-je bien dire que je chante ou ne chante pas qu'importe moi rejeté du monde nier personne au monde pour me consoler à qui me confier que je pleure, que je ris que je meurs, que je reste me voilà au creux de cette prison espoir envolé désir non exaucé je suis né en vain, c'est vrai et ma bouche doit rester scellée
گرچه دیریست خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم
Je ne suis pas le faible saule qui tremble à tous les vents. Je suis afghane. Il est donc légitime que sans cesse je parle en cri.
من آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم دخت افغانم و برجاست که دایم به فغانم
Afghane, extrait du recueil Fleurs rouges sombres de Nadia Anjouman. Nadia Anjouman a été assassinée un an plus tard en Afghanistan par son mari.
Je te souviens une seconde. Tout à fait. Non. Alors, c'est ça, enquête non résolue. Catégorie. Félicite poétique, non. Ça me fait toujours trop mal de voir tous leurs noms comme ça.
Ah là, voilà, c'est bon, je l'ai.
Anne-Laure Pinault, ouais. Journaliste, membre du collectif Femmes à abattre.
On a créé l'opération Femmes à abattre, une série d'enquêtes sur le féminicide politique. On a commencé par faire un gros travail data sur la période de 2010 à aujourd'hui. Il faut savoir que notre base de données compte 287 assassinats de femmes qui avaient une place importante dans la vie publique, qu'elles soient femmes politiques, journalistes, militantes, activistes, qu'elles se battent pour le droit de la terre, qu'elles se battent pour le droit des femmes et des minorités, qu'elles s'engagent contre les multinationales, les mafias, enfin, malheureusement, il y a de nombreux ennemis. On a déterminé que seulement 15% des assassinats politiques avaient débouché sur une enquête, et seule la moitié d'entre ces 15% ont abouti à une condamnation. Mais l'impunité est aussi parfois sociétale. Je pense par exemple au cas des meurtres de femmes trans. C'est-à-dire qu'on a 11% de cas de femmes trans sur nos féminicides politiques déterminés, alors qu'elles représentent moins de 1% de la population. Et pour autant, on ne questionne pas les violences que subissent ces femmes-là. En France, le seul cas que nous avons répertorié comme un cas de féminicide politique, c'est celui de Vanessa Campos, qui était travailleuse du sexe immigrée et trans et qui a été assassinée dans le bois de Boulogne. Là, l'impunité, à mon sens, elle est politique et sociétale.
Genève, 25 novembre 2023. Performance des 168 fleurs.
Je demande à toutes les personnes qui représentent les pays de se rapprocher. Je vais vous passer les micros. Bolivie, 87 féminicides enregistrés au 12 décembre 2022.
118 femmes étaient tuées en France en 2022.
Face à la Colombie, avec 619 femmes. On rajoute 270 fleurs.
Alors, le féminicide politique existe depuis toujours, depuis que les femmes sont dans la vie publique, à savoir depuis toujours. Si je devais trouver des noms de femmes dans l'histoire, je penserais tout premièrement à Jeanne d'Arc, quand il a fallu s'en débarrasser. Tout le procès le démontre, le simple fait d'être une femme était un crime. Et sa mise à mort théâtralisée aussi, le fait d'être brûlée en place publique, le fait d'avoir le crâne rasé, ce genre de choses, c'est un assassinat politique d'une femme providentielle. Un autre cas qui personnellement m'a beaucoup touchée, c'est celui des sœurs Mirabal. Là, c'était en République dominicaine. C'était trois sœurs qui avaient milité contre le dictateur Trujillo à l'époque en République dominicaine. C'était dans les années 60. À la base, parce que l'une des sœurs avait été séduite par le fils du dictateur et avait refusé ses avances, ce qui avait été vécu et par le fils et par le dictateur comme un affront politique et personnel. Et pour autant, elles ont continué à évoluer, à prendre la route pour s'engager contre ce dictateur. Et elles ont été assassinées sur la route, justement. Elles n'ont pas simplement été mitraillées, mais leurs corps ont été sortis de la voiture, attaqués à la machette, remis dans la voiture, et la voiture a été jetée depuis la falaise, a brûlé, enfin bref. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elles ont été assassinées le 25 novembre 1960, et le 25 novembre, depuis, est considéré comme le jour contre les violences faites aux femmes, dans le monde entier.
N'hésitez pas à vous reprocher, prendre une fleur et la mettre par terre. Aujourd'hui, on est ici pour toutes les personnes qui ne sont pas là. On crie pour les personnes qui ne sont pas là parce qu'elles s'étaient tuées. Donc, on les rend hommage tous ensemble.
Au moins 332 femmes ont été assassinées pour des raisons sexistes en Turquie en 2022. Il ne s'agit pas de chiffres officiels, mais d'un décompte effectué par des organisations féministes sur la base d'articles de presse, d'informations judiciaires et de témoignages.
Et on va finir. C'est là-bas, le mouvement féministe parle de terrorisme. Contre les femmes, parle de terrorisme. Contre nos vies, le féminicide au Mexique. Avec les 968 femmes. Que resuene fuerte! Nos queremos vivas!
C'est un lieu un peu difficile pour moi. Mais bon, c'est important d'y être parce qu'on est sous la plaque. Vous l'avez vue, cette plaque ?
Sylvie Jean, présidente de France Kurdistan.
Donc, cette plaque qui dit à la mémoire de Sakine Kanzis, qui avait 54 ans, Rojbin Fidan Dogan, qui avait 30 ans, et Leyla Saelemez, qui avait 25 ans, militante des droits du peuple kurde, assassinée ici, le 9 janvier 2013. Ça, c'est très important, parce que si ça n'efface pas l'irréparable, ça participe de l'inoubliable. Donc on est dans l'immeuble au 147 rue Lafayette. C'est dans cet immeuble que nos trois amis ont été assassinés. Voilà, c'était là. En fait, Sakine Rojbin et Leyla travaillaient dans ce bureau. Et donc, Sakine était accompagnée d'un homme qui, semble-t-il, payait pas de mine. Qui avait une voiture, donc qui souvent après les réunions se proposait pour accompagner les militants chez eux. Et donc il les a accompagnés et il vient ici et il tire dans la tête de chacune de nos amies 3 balles à bout portant et une balle en plus dans la bouche de Rojbin. La balle dans la bouche chez les fascistes, c'est une signature pour dire tu ne parleras plus jamais.
Alors au tout début de notre enquête, un des premiers éléments qui ont interrogé les personnes, c'est mais on tue les hommes, on tue les militants, on tue les activistes, on tue les hommes politiques aussi. Et c'est un argument qui est complètement intéressant puisque oui, de fait, on tue plus les hommes que les femmes. Puisqu'en l'occurrence, les hommes sont partout, et les femmes reléguées. Donc, en termes de chiffres, il est évident qu'on tue plus les hommes. Mais quand une femme est assassinée, il y a un petit supplément. Puisqu'en l'occurrence, elle a transgressé quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible. Et ça, c'est valable en Angleterre, comme en Colombie, comme au Kenya, comme n'importe où. Hein. Et ça se voit à travers la spectacularisation des meurtres. Donc je pense par exemple à l'utilisation de l'acide pour défigurer le visage. Ça peut être la gorge coupée post-mortem pour vraiment faire taire la personne. Tout ce qui est de l'ordre de la bouche, de la langue, c'est des parties du corps qui sont particulièrement visées puisque les femmes sont invitées à se taire.
Cet assassinat est un triple féminicide parce que voilà 3 femmes.
Sylvie Jean.
Qui jouait un rôle important auprès des femmes kurdes. Et donc, il pensait que ce triple féminicide allait fragiliser énormément le mouvement des femmes kurdes. Erdogan est un homme politique qui a peur des femmes, qui les méprise au plus haut point. Quand il a décidé de sortir la Turquie de la Convention d'Istanbul, il a lui-même déclaré qu'il n'y avait pas de raison que les femmes aient accès à l'égalité. Les femmes de Turquie sont sous le coup des interdits. Et les femmes kurdes en particulier, parce qu'il y avait un projet démocratique.
les femmes avaient largement contribué à écrire une constitution imprégnée d'égalité. Il y a eu les Palestiniennes en 1995 qui ont écrit une constitution égalitaire. Et puis les femmes kurdes ont été les premières du Moyen-Orient dans les années 2000. Cette constitution, elle dit l'égalité des droits, l'égalité d'éducation entre les garçons et les filles, le droit aux soins. C'est une constitution qui parle laïcité, de droit à l'écologie. Donc elles font des expériences avec des semences, des graines, etc. Donc, quel que soit le contexte, le plus violent, extrême par temps de guerre, elles ne lâchent pas leur projet. Les femmes, pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles représentent, et pour ce qu'elles imaginent pour le monde de demain, c'est ça la cible. C'est ça la cible. C'est leur résistance, la cible.
Quand on voit toute cette litanie de noms et de prénoms de femmes tombées sur le champ de bataille, la seule consolation qu'on peut avoir, c'est qu'elles sont, pour certaines, malheureusement pas pour toutes, pas mortes dans l'oubli. C'est pour ça qu'on peint sur les murs les noms des femmes victimes de féminicide par conjoint. Souvent, pour la plupart d'entre elles, elles ont disparu et derrière, c'est toute une armée qui s'est levée parce que leur nom, c'est une force vive.
Merci à Jane Capiuti, Francis Dupuy-Derry, Patricia Romito, Margot Giacenti, Allison, Christelle Tarot, Sylvie Jean, Anne-Laure Pinault. Merci également à Emmanuel Walter, Giovanna Rinson, Ager Seeli, Florence Taurolion et le collectif Rouge Pute de Genève. Lecture, Valérie Dashwood. Avec les voix de Marie Durieux, Maïwenn Guizhou et Shakiba Dawood. Conseillère scientifique, Christelle Tarot, historienne, directrice de l'ouvrage collectif Féminicide, une histoire mondiale, paru à la Découverte en 2022. Collaboration Hilaria Castagna. Documentation Annie Signoret et Antoine Villoz. Archivina Mylène Touché. Chargée de programme Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination Johanna Bedeau. Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes. Épisode 3, Femmes de mauvaise vie. Un documentaire de Pauline Chanu, réalisé par Marie Placé. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.